Donc je vais commencer pour vous faire une brève introduction qui va servir de thème sur ce déclinaison volcanique. Et Edouard va vous présenter ensuite tout ce qui se passe à la source des volcans plus profonds. Et par la suite, on se séparera le travail. Moi, je vous parlerai des mécanismes de l'ascension du magma vers la surface, comment ça se produit. Puis l'intérêt de comprendre la physique pour pouvoir faire des prédictions correctes sur les volcans. Pour prendre un exemple particulier où, disons, une notion simpliste de ce qui se produit conduirait à une erreur importante du diagnostic. On aura des exemples de l'intérêt d'avoir fait cette modélisation physique et qu'on ne peut pas uniquement se baser sur des concepts très simples et de l'expérience. Donc ce soir, l'exposé que je fais pour la population, c'est un peu plus général. Vous verrez, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises, puisque sans compréhension des mécanismes en jeu, l'expérience est un très mauvais guide pour comprendre ce qui se produit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un volcan? Le volcan, c'est une partie superficielle, mais c'est beaucoup plus profond. Donc c'est finalement, quand vous avez une maladie, vous avez des éruptions de boutons, vous savez bien que la cause est bien plus profonde, que le bouton, c'est un symptôme. Qu'est-ce que c'est qu'une éruption volcanique et sur quoi ça repose? Et il faut 36 choses. Il faut d'abord une source de magma, puisque ça vient de grande profondeur. Donc ça vient en jeu la planète. Et on va parler de ça. C'est important de comprendre ça puisque la source elle impose le type de magma qui est produit, elle impose aussi le débit qui est possible. Si la source est lente, ça va sortir des débits très lents, donc les volcans vont évoluer lentement. Si c'est une source avec un gros débit, bien évidemment, ça change complètement le mécanisme. Deuxièmement, on va parler du matériau qui est mis en jeu, c'est le magma. Le magma, c'est en fait un terme générique qui recouvre des liquides de composition extrêmement variée, avec des propriétés physiques aussi extrêmement variées. Vous verrez que, en fait, c'est l'une des grandes caractéristiques des magmas, c'est que vous avez plus de 12 ordres de grandeur de variation d'exclusivité, par exemple. Donc, entre un magma basaltique et un magma plus écolé, il y a 1812 de facteurs. C'est énorme, évidemment, ça conduit à des types d'éruptions complètement différents. Ensuite, on parlera très rapidement de ce que c'est que le système superficielle, ça nous en parlera dans les exposés d'après, ensuite l'édifice volcanique. Donc voilà le schéma. Vous avez, vous voyez ici ce petit bouton, enfin ce symptôme de surface qui est l'édifice volcanique qui canalise plus ou moins les éruptions. On verra d'ailleurs dans certains cas, ça ne les canalise pas, ça les empêche même. Ensuite, il y a en dessous les réservoirs, on verra dans le 420 avant le. De ce qu'on sait sur Santorin, vous verrez que les magmas qui sont sortis de Santorin ont beaucoup changé dans le temps. Et puis, quand on descend encore plus, il y a tout un système d'alimentation profond qui connecte ce réservoir avec la source profonde qui elle-même est le résultat de mouvements beaucoup plus profonds à l'intérieur de la planète. Donc, les magmas, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, c'est toujours ce sont des. L'oxyde de silicium avec quelques composants qu'on rajoute. Donc la manière la plus simple de considérer le magma, c'est de le reporter en réaction en silice, CO2, mais il y a d'autres choses derrière. Donc c'est des mélanges d'oxydes. Toute la terre superficielle, c'est oxydée. Donc il y a des oxydes de calcium, des oxydes de potassium, des oxydes de magnésium, des oxydes de fer, etc. Donc là, il y a ce qu'on appelle une série de différenciation, ça veut dire que tous ces magmas se dérivent les uns des autres par cristallisation fractionnée. C'est-à-dire quand vous avez un basalte, il cristallise un petit peu, le liquide résiduel, c'est une andésite qui cristallise, qui ensuite vous conduit à une dacite, etc. Donc le dernier liquide qui est produit, c'est la rhyolite, qui est une propriété très particulière. Donc typiquement, si vous êtes capable d'être assis sur un réservoir qui évolue en système fermé, vous allez voir le volcan qui va vous émettre d'abord des basaltes, des et c'est ce qui s'est produit au Santorin, je vous montrerai plus tard. Donc voilà typiquement la variation de contenu en silice dans ce système-là. Il y en a d'autres, hein, les systèmes de différenciation, il y a une autre série qu'on appelle la série alcaline, mais bon, c'est pas important ici. Voilà ici maintenant l'échelle de viscosité. Donc la viscosité ici elle est reportée avec le liquide sans volatile, sans eau. Et vous voyez ici ça va, il y a deux ordres de grandeur de variation, parce que les batailles qui sont même pas. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'eau c'est 10⁻³ pascal seconde, 1 millipascal seconde. Donc les basaltes c'est grosso modo typiquement 1000 fois plus visqueux que l'eau, et plus encore. Et là, vous voyez, c'est le pacte hein, qui est, je vous donnerai des exemples sur ce que ça signifie. Ça se voit visuellement, hein, c'est très visqueux. La densité, on en parlera beaucoup, parce que tout est propulsé dans la Terre par la force d'Archimède. Donc, ce sont les variations de densité qui sont responsables de tout. Les variations de densité qui sont responsables de la dérive des continents, de la convection en manteau, de la solution. Tout est lié aux variations de densité. Et dans les systèmes aquatiques, la variation de densité est essentiellement liée à la composition, qui d'ailleurs donne des variations de densité qui sont plus importantes que celles qui sont liées à la température. Donc, vous voyez qu'ici, on a des choses très très différentes sur les magmas. Donc, pour montrer l'effet de l'explosité, ben, quand vous avez un basalte, ça c'est Kilola, une coulée d'âme de basalte, ben, c'est, vous voyez ici, c'est agité de vagues, c'est un liquide qui compte une fois l'explosité de l'eau, donc c'est quelque chose qui s'écoule d'abord très très rapidement, et ensuite, dans la surface, peut être très agité lorsque descend des pentes à grande vitesse, c'est-à-dire par contre, il y a des tournées, etc. Donc, c'est toujours très dangereux d'être près de ces coulées d'âme, parce que comme elles sont très visqueuses, elles peuvent déborder extrêmement rapidement. Quand c'est un peu plus visqueux, je vous montre un exemple ici, c'est le volcan Popocatépetl, à Mexico. Donc ça, c'est le cratère de volcan, la face de l'étage. Ce qu'on voit au milieu, c'est pas une bouche de vache, c'est une très très grosse vache. C'est un dôme de lave, parce que là, c'est une acide, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus visqueux. C'est du magma qui sort d'un conduit éruptif exactement comme le basalte. Mais comme il est beaucoup plus visqueux, ben, il ne s'écoule pas là, vite et il s'accumule au droit de la bouche éruptive en formant un dôme. Certains de ces dômes peuvent atteindre plus de 300 mètres d'épaisseur, je peux en donner d'autres. Donc ça, c'est des visqueux intermédiaires. Les débits sont évidemment différents. Mais...
J'ai une question par rapport à ce que tu dis. Justement, le temps de refroidissement du matériel par rapport à sa viscosité, ça doit être un critère important, ça, non?
Alors ça dépend du débit. Donc ce que Sacha nous dit là, c'est que c'est important de savoir quand est-ce qu'il y a accélération, refroidissement. Donc typiquement pour les débits volcaniques, en fait plus le magma est visqueux, plus les conduits éruptifs sont grands. Parce que si ça avait la même taille que le basalte, étant donné que les suites étaient beaucoup plus importantes, il monterait beaucoup plus lentement et donc refroidirait avant d'avoir l'interaction. Donc en fait il y a une relation aussi qui est très simple, mais on en parlera lorsque je parlerai des mécanismes de la tension. Donc il faut bien voir que le système d'alimentation n'a pas la même dimension pour un basalte que pour une lave beaucoup plus visqueuse. Donc pour une lave plus visqueuse, c'est beaucoup plus gros, l'effet de refroidissement est plus lent et la éruption peut se faire avec des débits plus faibles. Donc voilà, quand c'est très très visqueux, donc ça c'est l'exemple classique de la montagne Pelée, c'est pendant le record du monde, c'est pas comme l'équipe de France de rugby contre l'Axe. Donc ça c'est un être vivant, c'est, vous voyez, ça va qui a dépassé les 300 mètres d'altitude, le liquide est beaucoup trop visqueux pour s'étaler. Donc au lieu de s'étaler, eh bien, il monte au droit du conduit. Donc vous voyez ici, il y a une énorme différence de comportement à la sortie du conduit uniquement liée à la viscosité. L'autre ingrédient qui est important pour moi, ce sont les volatiles. Donc, je montre ici une courbe de solubilité de l'eau dans un liquide rhyolitique, donc ce terme très différencié. Donc c'est la concentration d'eau que vous pouvez mettre dans ce magma en fonction de la pression. Mégapascal, donc ça c'est 1 kilobar. 1 kilobar, ça représente 3 km de profondeur. Donc plus c'est comme le principe de la bouteille de champagne, vous pouvez mettre du gaz en solution si vous le mettez sous pression. Donc dans votre bouteille de champagne, c'est pour ça que vous avez un bouchon qui est renforcé avec du fer. C'est que l'intérieur est sous pression, c'est pour ça que le gaz reste en solution. Et c'est aussi pour ça que lorsque vous ouvrez la bouteille, bien, les bulles sortent. Donc c'est un mécanisme très simple à comprendre. Ce qui est important ici, vous voyez qu'il y a très peu en masse, donc ça c'est la concentration en masse, vous mettez quelques pourcents en masse d'eau là-dedans. Mais vous allez voir que la conséquence est très importante, en masse c'est très faible, mais en volume c'est très très important. Donc voilà ce que vous pouvez mettre. Donc les magmas sont formés dans des conditions différentes, vous pouvez imaginer que les magmas sont formés à certaines conditions qui leur donnent une telle concentration, telle ou telle concentration en eau. 2, 3, 4, on a des magmas qui atteignent les 10% d'eau, mais c'est vraiment le maximum. Typiquement, c'est pour un basalte, c'est moins d'un pour cent. Pour les rhyolites, c'est typiquement 5 à 7%. Donc, qu'est-ce qui se produit? Bien, supposé qu'il y ait un magma qui contenait 3% d'eau, parce que sa source est fournie comme ça, il est formé à très très grande profondeur, c'est largement 2 ou 3 km de profondeur. La source du magma, c'est typiquement sous la croûte terrestre, c'est à des profondeurs de quelques dizaines de kilomètres. Donc ce magma, il monte, on verra pourquoi il monte tout à l'heure, il monte, ambiante sous l'apport de solubilité, ben, le gaz reste dissous. Et puis au moment où il atteint cette cour de solubilité, ça c'est la réaction d'équilibre maximum pour ce réaction de gaz, si je continue à décomprimer, eh bien, je vais avoir ces volatiles qui sont en solution, qui s'expriment sous forme gazeuse. Plus je décomprime, et plus je vais sortir du gaz de la solution. Donc il y a deux effets importants, c'est que quand je décomprime, je vais augmenter la fraction de masse qui est, dans la, qui est sous une forme de gaz, et en plus, quand la pression diminue, ben, ce gaz va se dilater. Donc voilà ce qui se passe pour maintenant la fraction volumique de gaz, c'est pas la fraction de masse. J'ai pris une rhéolite qui est vraiment pas riche en gaz, donc 1,8% d'eau en dissous, c'est pas grand chose, c'est en masse, 1,8% en masse. Donc ça, la seule solubilité, c'est pour une profondeur qui est ici, mais de l'ordre de. Ça correspond à 120 bars, c'est 2 mètres par 1 km de profondeur. Donc à partir de ce moment-là, le gaz commence à sortir, et puis vous voyez la dévolution de la fraction volume de gaz qui augmente, et lorsque je sors à la pression atmosphérique pour 1 bar, vous avez ici 98% en volume de gaz. Donc vous voyez que ce qui se produit, c'est que en ce qui concerne la masse, le gaz n'en prend rien, mais en ce qui concerne le volume, tout est dans le gaz. Donc c'est pour ça qu'on a deux types de solutions très différentes, les solutions où il y a un peu de volatile, quelques pourcents, et ça, ça va donner des colonnes qui sont très riches en gaz, je vous explique ce qui se passe. Le gaz, on ne peut pas le 98% de gaz, vous ne pouvez pas le stocker sous forme de bulle dans un liquide, c'est pas possible, il n'y a pas assez de place, donc ça explose, et ça vous donne ces grands panaches éruptives qui sont en fait des cendres, des petits bouts de magma qui sont portés par un flux gazeux. Ça, c'est quand il y a un peu de gaz, quelques pourcents en poids. Quand vous avez moins de 1% en poids, ce qui sort, c'est des dômes. Voilà ici le dôme de la plus grande éruption du XXe siècle, qui est une éruption d'Alaska, 1912. Et ce dôme, il fait 150 mètres d'épaisseur, et puis 2 km de large. Enfin, c'est pas négligeable. Et donc là, il y avait très peu de gaz, et donc ça a permis à cette éruption calme de sortir simplement de la lave qui s'est accumulée parce qu'il était très vite. Donc faites attention. Les dômes contiennent quand même du gaz. Et quand vous avez un dôme qui fait 200 mètres de hauteur, le gaz qui est au fond est à la pression de 200 mètres de poids, de verre, et donc c'est quand même une pression importante. Et donc c'est toujours dangereux parce que si jamais il y a un bout de ce dôme qui s'effondre, bien la dilatation totale du gaz qui était au fond peut conduire à des petites explosions qui sont petites à l'échelle d'un dôme et énormes à l'échelle d'un être humain. Donc le message à retenir, évidemment, c'est qu'aucun style éruptif peut être considéré comme pas dangereux. Il faut toujours se méfier. Donc, qu'est-ce qui se produit lorsqu'il y a une éruption explosive? Donc, vous partez en profondeur, les réservoirs sont à quelques mètres de profondeur, en général, les volatiles sont dissous. Donc, pour des raisons qu'on expliquera plus tard, le réservoir finit par gonfler, finit par casser ses murs, le magma monte parce qu'il est plus léger, on verra là-dessus. Et quand il monte, eh bien, le gaz sort. Vous avez dilatation des bulles, il y a de plus en plus de gaz qui sort, de plus en plus de bulles. Donc on forme une mousse magmatique, mais une mousse magmatique, ça n'est pas stable, parce qu'on sait avec une mousse, elle finit par claquer, c'est de faire ça avec de la lessive chez vous. Vous verrez que la mousse finit par claquer, déjà ça s'entend, si vous mettez l'oreille près de votre mousse, vous allez entendre des petits claquements, c'est des bulles qui éclatent. Et à ce moment-là, il y a une énorme transition qui se produit, qui est ce qu'on appelle la fragmentation, qui est telle que le gaz n'est plus sous forme de bulles suspendues dans un liquide. Mais cette fois-ci, les bulles ayant éclaté, c'est le gaz qui porte les petits fragments de magma en solution, en suspension. Donc à ce moment-là, vous avez une éruption qui vous pulvérise le mélange de gaz et de cendre à haute altitude dans l'atmosphère, et c'est ce qu'on appelle des éruptions explosives. Il y a deux régimes d'explosion explosive, je vais vous montrer maintenant pourquoi il y en a deux. Avant de discuter ça, je vous montrer ce qui se passe lorsque ce mélange se décomplique dans l'atmosphère. Là, vous avez un planage. En fait, c'est un planage turbulent. Donc, le turbulent, ça veut dire que la turbulence fait que ce qui sort du conduit finit par se mélanger à l'atmosphère ambiante. Donc, il y a un mélange qui se fait. Donc, au fur et à mesure que ce mélange s'élève dans l'atmosphère, il s'enrichit en gaz atmosphérique, il y a de plus en plus d'atmosphère. Donc, en principe, ça s'allège, parce que ça, évidemment, de plus en plus de gaz, donc c'est de plus en plus favorable à la poussée d'Archimède. La seule difficulté, c'est qu'en fait, ça se produit plus ou moins bien, selon le rapport entre, finalement, le rapport surface sur volume, parce que vous entraînez la conscience forcément à l'extérieur du jet ici. Donc ça dépend énormément de la taille du jet. Donc si vous avez un jet qui est très très grand, la quantité d'atmosphère que vous pouvez ingérer à la périphérie est faible. Donc votre mélange en fait, ne s'allège jamais suffisamment et va retomber. Donc il y a deux cas importants à distinguer. C'est quand le mélange est fait de manière très efficace, vous êtes capable d'alléger le mélange, à ce moment-là il devient propulsé par sa poussée d'Archimède, il atteint des hautes altitudes de l'atmosphère, ce sera vers la colonne pinienne, je vous l'ai déclaré tout à l'heure. Et si ce mélange ne se fait pas de manière très efficace, le mélange n'est jamais suffisamment léger et finit par retomber. C'est ce que vous faites pour avoir un jet d'eau, vous le sentez, le jet d'eau à la verticale, vous constatez que le jet d'eau s'arrondit. Ce qui se passe, c'est que bah, vous forcez le jet d'eau à sortir avec une certaine quantité de mouvement, il doit lutter contre la pesanteur et finit par retomber. Ce qui sort du monde volcanique, comme je vous l'ai dit, c'est dominé par la phase gazeuse en volume, mais pas en masse. Vous avez quelques pourcents seulement de gaz en masse. Donc, grosso modo, ce qui sort, c'est quelque chose qui a la densité du magma, mais qui a le comportement d'un gaz. Et donc, ce truc-là doit retomber s'il ne s'allège pas avec l'injection d'atmosphère. Donc, voilà les deux régimes. La colonne pinienne, c'est la colonne telle que eh bien, le mélange est très efficace. Donc votre jet d'eau finit par avoir de plus en plus de gaz, de telle manière à ce que finalement il soit suffisamment léger pour être propulsé par sa poussée d'Archimède, parce que c'est quand même du gaz qui échoue. Donc c'est des colonnes qui vont monter à très haute altitude dans l'atmosphère, colonne pinienne, ça va dépasser ça va aller dans la stratosphère, un petit peu d'altitude facilement. Et ensuite ça atteint des niveaux, parce que l'atmosphère elle-même est stratifiée en densité, donc comme vous avez vu tous des images de champignons de votre mélange finit par atteindre un niveau où il y a la même densité de l'atmosphère, et à ce moment-là, il arrête de monter, il s'étale latéralement dans ce qu'on appelle une ombrelle. Donc la forme que vous avez pour une éruption de ce style-là, c'est une éruption qui est typique, qui a été décrite par Pline le Jeune, qui a étudié ça à de l'ordre d'éruption du Vésuve en 76 avant Jésus-Christ, mais ça a la forme d'un fin parasol. Il a oublié de décrire la partie lointaine ici, tout simplement parce que c'est un panache qui, lorsqu'il s'élève dans l'atmosphère, se mélange avec l'atmosphère, et donc il grossit en taille, parce qu'il porte de plus en plus de gaz. Donc ça, c'est la colonne pinienne. Le résultat, c'est que vous dispersez tout le flux volcanique sur de très très grandes distances, que dans l'ombrelle, ça va porter latéralement. Et donc, tout ça descend, ensuite, en plus dans l'atmosphère, ça retombe, ça vous fait une pluie de cendres qui peut recouvrir des milliers de kilomètres carrés. Donc, la dispersion, en fait, est quelque chose qui est peu dangereux. Et puis volcanique est tout simplement réparti sur une très grande surface. Voilà l'éruption du mont Pinatubo, qui est la deuxième éruption la plus violente du XXe siècle par ordre d'importance en 1991. Donc l'apanage, il atteint 1,3 km d'altitude de l'atmosphère. Le volcan, on le voit pas évidemment, et que ça atteint des altitudes très fortes, assez plus d'un champ. Voilà ce que c'est vu de satellite. Donc c'est pas l'éruption du parce que je n'ai pas de photo aussi belle pour ce niveau, c'est le mont Rabaud du Nouvelle Guinée. Vous voyez ici, donc c'est un satellite atmosphérique qui est à une altitude de, je crois, 40 km. Vous voyez ici le panache monte et finit par atteindre un niveau où il est à la même densité que l'atmosphère, ça s'étale latéralement et long. Ça, c'est comme le plié, vous devinez ici l'élargissement du panache au fur et à mesure qu'il s'élève dans l'atmosphère.
Cette ligne de nuages là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est aussi ça, là, quelque chose? Non, pas la deuxième, devant nous.
Là?
Oui. Là, est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est...
Non, c'est simplement des nuages atmosphériques.
Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas une sorte de...
Donc tu vois, là, l'atmosphère, c'est dans la stratosphère. Donc il y a très très peu de nuages dans la stratosphère. Il y en a quelques... C'est des nuages de très très grande dimension à faire concentration. Donc ça, c'est des nuages dans la troposphère.
Qui était là?
Donc voilà un dépôt, je vais vous montrer les dépôts pour l'éruption du Vésuve qui est célèbre, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une éruption ça change le régime au cours du temps, pour des raisons que Grégoire vous expliquera, je pense. Voilà le dépôt pinien du Vésuve. Le Vésuve a commencé par faire une éruption pinienne décrite par Pline le Jeune. Vous savez que ce qui s'est produit, c'est que lorsque le Vésuve a commencé à rentrer en éruption, il y avait des tremblements d'air, des explosions, pas mal de gens sont partis. Pline l'Ancien, qui était le géographe, était un peu corpulent. Décidé que finalement, c'était pas si grave que ça, il n'y avait plus de sang, entre la fatigue de se déplacer et puis d'avoir plus de sang, il a fini par se dire, écoutez, je vais rester. manifester. Il n'a jamais été plus malin, donc voilà, ça ne fait rien répondre, il est parti. Donc quand il est parti, l'érosion pénine a continué. Il a pu décrire donc, ce panache pénin que je vous ai décrit, c'est magnifique par parasol. Mais évidemment, il ne peut pas savoir qu'en fait, l'érosion a changé de régime, elle est devenue le deuxième régime que je vous décris tout à l'heure, et qui a évidemment dévasté, il y a évidemment beaucoup de pays, etc. Donc voilà un des gros pénins, typiquement c'est quelques mètres, on en verra ici à son point, si vous regardez, une bonne partie du sous-bassement de cette ville est sur un des gros pénins. Donc ça c'est. Vous voyez que s'il se passe un mètre, c'est pas grave. Et vous verrez plus tard que. Donc voilà les éruptions pliniennes. On peut, pour vous donner l'endroit où c'est, on peut déterminer le débit en reconstituant les caractéristiques des dépôts. D'abord, on en parlera. Donc voilà les débits en kilogrammes par seconde. Vous voyez que c'est des beaux débits quand même. Et voilà la masse totale. La masse totale, c'est facile à reconstituer. Donc vous pouvez, avec de ça, voir la durée d'une éruption. Une éruption plinienne, ça dure quelques jours, typiquement. Celle de Santorin, se produit, c'est une éruption qui a produit dans le milieu, c'est pas du tout une éruption spectaculaire, c'est une éruption normale, rien d'extraordinaire, ça s'affiche à 35 km3 si je me souviens bien. Les éruptions comme le Pinatubo, c'est un peu plus petit que ça. Et puis l'éruption du Mont-Saint-Hélène, vous avez peut-être entendu parler, qui est une éruption qui a secoué pas mal, parce que c'est des faits aux États-Unis d'Amérique, dans une région très touristique aux États-Unis d'Amérique, c'était un peu de la fin. Donc on s'est beaucoup excité, mais c'était vraiment une éruption très petite. D'ailleurs, ce sera très difficile dans quelques années de retrouver les traces. C'est tellement petit que le dépôt est ridiculement fin. Donc vous voyez, les termes les plus extrêmes, ça c'est des éruptions comme l'éruption de Toba ou de Tarfou, il y a quelques éruptions extrêmes, mais les masses qui sont, donc ce sont des éruptions qui recouvrent des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres. Donc le deuxième régime, c'est le régime de coulée pyroclastique. Donc c'est la même chose qui sort du conduit, il y a très très peu de différence. C'est l'instabilité qu'on a beaucoup étudiée, parce qu'elle est évidemment fondamentale. Le mélange qui sort, comme je vous l'ai dit, c'est en ce qui concerne le gaz, c'est dominé en volume par le gaz. Et en ce qui concerne la masse, c'est très très dense. Donc c'est éjecté à l'arrière de votre jet d'eau. Le mélange dans l'atmosphère ne se fait pas très bien, donc votre jet d'eau retombe. Donc là, la conséquence est considérable. Le débit n'a pas beaucoup changé. Ce qui change, c'est peut-être un petit peu la contourneur, c'est peut-être la taille du niveau volcanique, c'est peut-être aussi des petites instabilités dans le panache. Mais ce mélange n'arrive jamais à s'alléger suffisamment pour être propulsé par pousser l'archimède, donc ça retombe. Donc au lieu d'avoir dispersé tout le volume sur une très très grande surface sous forme de pluie, eh bien vous allez avoir le même volume qui va être concentré en coulées qui vont dévaler les pentes du volcan. Donc évidemment, c'est pas du tout les mêmes conséquences. Encore une fois, le débit n'a pas changé, quasiment. Mais vous avez maintenant tout ce qui sort du conduit volcanique est canalisé au droit de l'édifice humain. Donc une altitude typique de coulée pyroclastique, c'est quelques kilomètres dans l'atmosphère, ça va pas jusqu'à la stratosphère. Donc voilà une coulée pyroclastique d'un volcan en Australie. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été observés par les êtres humains de près. Une coulée pyroclastique, il ne faut pas regarder, facile d'être prêt, vous pouvez la voir, mais après vous ne serez plus là pour raconter comment ça s'est passé. Oui, il y a un panache qui s'élève et ça retombe sous forme d'une coulée. Encore une fois, là-dedans, il y a quelques pourcents en masse de volatiles, mais évidemment, les volatiles occupent 99% du volume.
Non.
Voilà un dépôt de coulée pyroclastique au Vésuve, celui qui a fini par tout détruire. C'est quasiment le même débit. Vous vous souvenez que le dépôt pinien, il faisait peut-être 2 mètres d'épaisseur. Voilà un dépôt de coulée pyroclastique. Le débit n'avait pas changé, mais au lieu d'être réparti sur une très très grande surface, quand vous l'avez concentré, ça a dévalé les pentes, c'est-à-dire qu'un homme de pluie, c'est un être humain. Et maintenant, vous avez des dépôts qui font des dizaines de mètres d'épaisseur. Évidemment, les conséquences pour les bâtiments et pour les êtres humains ne sont pas les mêmes. Alors parfois, la nature joue des petits tours. Montrer que la volcanologie, c'est aussi des mécanismes et puis parfois de comprendre que les mécanismes peuvent se combiner. Je vous donne juste un exemple. Voilà, je passerai la main à Edouard. Ça, c'est une éruption du Mont Rigaud en Alaska dans les années 90. Vous voyez le volcan. Vous avez ici une belle colonne qui a l'air plinienne. En fait, si vous regardez en détail, on va voir qu'en fait, c'est une colonne plinienne qui vient d'une coulée pyroclastique. Parfois, les volcans font les deux en même temps. Je vous explique le mécanisme. Donc, voilà un zoom. Donc ça, la bouche qui est là, ça a sorti un petit panache qui sort, ça alimente cette couche hydrographique, vous devinez que c'est très dense, et vous voyez bien que ce panache ici énorme qui monte à haute altitude provient d'une distance assez importante de la bouchée optique. Et ce qui s'est produit, c'est que la couche hydrographique, quand elle dévale les pentes, elle sédimente ses cendres, donc vous vous retrouvez avec finalement une partie superficielle qui est de plus en plus allégée, et comme elle est chaude, et bien elle s'élève en panache. Donc vous voyez qu'on peut avoir des régimes qui sont couplées, il y a des tas de choses intéressantes qui peuvent se présenter. Donc pour résumer cette petite partie d'introduction sur la zone volcanique, ce que vous devez retenir, c'est que une zone volcanique, ça fait intervenir des liquides très très différents selon les cas. Il faut évidemment connaître le liquide avant de faire un diagnostic. Ça fait intervenir aussi des volatiles qui sont en solution. Donc ça aussi, c'est essentiel de faire un diagnostic. Et la meilleure manière de comprendre une éruption, c'est de comprendre les précédentes, parce qu'il y a une logique dans le temps d'éruption du volcan. Et il n'y a rien de mieux pour expliquer ça que le volcan de Santorin. C'est pour ça qu'on rentrera ça mardi. Là, c'est l'atmosphère qui se ratifie. Donc, en fait, c'est la phase que c'est. Donc, tu as des. Parfois, tu en as trois, comme ça. Niveau. Comme c'est une petite stratégie dans l'atmosphère avec une couche qui est plus légère, le panache peut dépasser ça, et ensuite, ça peut te faire des plusieurs. Donc, là, c'est uniquement l'atmosphère. Tu peux regarder certains panaches d'éruption, d'explosion atomique, tu vois le même genre.
Oui, oui, mais c'est la même. C'est
la phase que c'est dans l'atmosphère.
C'est ça, c'est l'atmosphère.
Les champignons, là, c'est la même chose qu'on finit.
Alors. C'est la colonie qui continue. Comme le volume est très important, c'est un petit horizon d'atmosphère qui a cette densité-là. Donc en fait, c'est pas une inertie, hein, en fait, c'est capable de dépasser ce niveau de densité. En fait.
Oui. Là, sur cette photographie.
Alors, ce qui se produit, c'est que je regarde de loin. Donc là, la bouchée optique est là, c'est le sommet du cône volcanique. Donc ce qui sort, c'est trop dense, ça n'arrive pas à se mélanger efficacement à l'atmosphère, donc ça fait une coulée pyroclastique qui dévale les pentes. Donc ça dévale les pentes, mais en dévalant les pentes, les cendres qui sont portées par l'écoulement sédimentent. Et donc, tu te retrouves avec une partie superficielle qui est très allégée, puisqu'elle a perdu une bonne portion de ses cendres. Et donc, le mélange de cendres et de gaz qui est là, il va devenir plus léger de l'atmosphère. Quand il devient plus léger de l'atmosphère, il part sous forme de cône. Donc, ça veut dire simplement que tu peux produire, je n'ai pas montré, mais il y a des mélanges qui peuvent se produire, des volcans qui sont dans des régimes qui sont juste à la transition entre les deux, peuvent alterner. On se retrouve avec des systèmes qui peuvent te donner des séquences éruptives complexes. C'est ce qui s'est produit sur le Vésuve. Le Vésuve a fait d'abord une première phase clinienne, ensuite une phase de pyroclastique, c'est revenu un peu de clinien. Donc ça a oscillé au travers de la transition entre les deux régimes.
Donc il y a une différence.
La manière la plus simple, il y a deux choses qui rentrent en compte, c'est l'efficacité du mélange. Donc ça dépend de deux choses. Si tu as vraiment, vraiment énormément de masse solide, donc de sang, très peu de gaz, tu n'arriveras jamais à alléger, donc ça retombe. L'autre chose importante, donc ça dépend de la pression en relative du magma. L'autre chose, c'est la taille du conduit volcanique et la taille de la colonne éruptive. Si tu as une colonne très mince, tu te retrouves avec un rapport surface sur volume qui est très favorable, parce que l'entraînement, le mélange de la pression, ça se fait à la périphérie. Donc là, typiquement, on suppose que c'est pas. Turbulence à une distance caractéristique de mélange, elle se fait avec un flux que tu peux considérer comme étant donné, et tu vas multiplier ce flux-là par la surface, ça va donner le taux de mélange avec l'atmosphère, et quand c'est une petite colonne, c'est très efficace, parce que tu as une petite surface pour un volume, tu as une grande surface pour un volume. Si maintenant tu as une colonne qui est de très très grand rayon, ça se fait à la périphérie, et là le rapport est beaucoup moins favorable. Tu n'arrives jamais à mélanger suffisamment, tu n'arrives jamais à entraîner suffisamment d'atmosphère à l'intérieur du panache pour alléger. Donc il y a les deux effets. Donc typiquement, dans l'éruption du Vésuve, je ne sais pas trop en parler, on
créé par le séisme associé de la croûte et qui amènerait à ce qu'il y ait une sorte de, d'éruption secondaire.
Tu veux dire un séisme qui n'a rien à voir avec une éruption?
Non, le séisme qui serait provoqué par la première éruption qui permettrait de créer des fractures et amener à ce qu'il y ait un deuxième, une deuxième positionnement d'éruption. Ouais. On n'a jamais vu sur un phénomène.
Alors, ce qu'on voit, c'est que dans les éruptions, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Et certaines éruptions peuvent se prolonger pendant des années, voire des dizaines d'années. Donc, typiquement, le système pré-superficiel, c'est dans le conduit volcanique, finit par pénétrer un édifice volcanique qui est lui-même très faiblement consolidé. C'est un matériau qui est plein d'irrégularités, plein d'anisotropie. Donc, typiquement, ce que tu vois, c'est que les bouches éruptives peuvent changer dans le temps. Donc, ce n'est pas tellement un bon matériau bien solide, bien solidifié, bien homogène que tu as fracturé, c'est un lieu qui est déjà perdu. Donc en fait, tes bouches éruptives, elles peuvent bouger. Je montrerai à Saint-Santorin, ça se voit. Donc après, supposons que j'ai plein d'éruptions que j'ai vues et que je ne connais pas les gens, ce qu'on voit, c'est que les éruptions sont, ça j'en parlerai demain, je ferai la fin de ça, on va parler de physique précise, hein, c'est bien la production générale. Ce que tu vois, c'est qu'il y a des fissures éruptives qui se grandissent dans le temps. Une fissure, c'est sous pression. Quand on est sous pression, ça s'étale. Donc en fait, les cycles éruptifs peuvent se déplacer dans le long de la fissure éruptive.
Donc c'est ce qui s'est passé avec Hawaï.
Par exemple, c'est ce qui s'est passé en distance, sur votre point. Et ça dépend de la topographie, ça dépend de tas de facteurs. Donc il faut voir, mais en général, effectivement, une éruption de type fissural qui est sur un système peu développé peut donner des éruptions qui vont migrer dans le temps. L'éruption d'un célèbre Laki en Islande, parce qu'elle a fait quelques images, j'en parlerai ce soir, c'est une option qui a migré de plus de 50 km.